Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, répondirent-ils.
Alors, vous avez entendu cette parole de Dieu, de Jésus, dans Matthieu 13. On va aller voir dans Luc, au chapitre 21. Et quelqu'un d'autre, c'était donc Matthieu 13, versets 47 à 50. Si quelqu'un d'autre veut lire, Luc 21, versets 29 à 36. Luc 21, versets 29 à 36. Habituez-vous, c'est une grande richesse, il faut le faire, il n'y a pas besoin de faire de l'hébreu, de le grec et tout ça. Bon, on peut le faire, ça peut aider quand on veut prendre des responsabilités dans l'enseignement. Mais ce qu'il y a pour tous les chrétiens, ce qu'il faut faire, c'est prendre les quatre évangiles, les lire en parallèle. Et prendre un cahier et noter. Voilà ce qui est dit dans Luc, dans Marc, dans Matthieu, dans Jean. Et quand on a fait ce travail-là pendant des années, on a quelque chose en nous qui est différent. Voilà. Et c'est la connaissance de la parole de Jésus qui est différente. Elle est beaucoup plus profonde. Luc 21, versets 29 à 36.
Et il leur dit, vous préparez-vous, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront et mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme.
Donc vous voyez l'enseignement de Jésus ici, explicite, celui que nous avons dans Matthieu qui est plus bref, que Matthieu a rapporté de manière plus brève. Et qu'est-ce que vous voyez ? C'est que le royaume de Dieu est proche, c'est un participe présent, est venant, arrive, et en fait c'est Jésus. En premier, le Fils de l'homme, c'est lui, le royaume des cieux. Et bien sûr, tous ceux qui sont avec lui. On reprendra la parabole, la dernière parabole de Matthieu 13 après. Mais regardez bien tout le contexte. Le filet, il viendra comme un filet, donc c'est le Christ le filet. Hop, tous les hommes y passent dans le filet. Et puis il est trié. D'abord, vous devez savoir que il y a quatre paraboles à la fin de Matthieu, une à la fin du chapitre 24 et trois dans le chapitre 25 qui nous montrent les dispositions pour être du bon côté, pour être bien trié, pour être considéré comme du blé, considéré comme une vraie brebis, pas un bouc, etc. Donc la continuité de ces paraboles-là, on la fera après le baptême, on étudiera les autres paraboles dans Matthieu. Pourquoi ? Parce que c'est un tout. Ce n'est pas un bric-à-brac un évangile, contrairement à ce qu'on pense. Il y a un tout dans l'enseignement. Et dans Luc 21, il faut faire attention. Vous avez dans Luc 21 toutes sortes de choses qui sont dites et qui sont importantes. Au début du chapitre 21 de Luc, il y a la petite pauvre qui donne de son superflu et que Dieu, Jésus bénit, mais pour l'autre, l'hypocrite qui avance devant et qui met beaucoup d'argent, alors qu'il en a encore beaucoup plus, alors que la petite vieille n'a plus rien, eh bien, pratiquement, celui-là, Jésus ne le rejettera. C'est déjà une parabole. Donc l'hypocrisie, Dieu a l'argent, comme Ananias et Séphira, l'hypocrisie avec l'argent. même dans les églises, mais partout dans le monde. Ça ne marche pas avec Jésus. Ensuite, il y aura, à partir du verset 7, des tremblements de terre, des guerres, etc. Et puis après, à partir du verset 12, il y a des persécutions, on envoie les chrétiens au tribunal. Et il faut rester stoïque, il faut servir de témoignage. Et au verset 15, Dieu donnera une bouche à ceux qui sont persécutés, à ceux qui sont condamnés, même peut-être tués, il donnera une bouche pour témoigner. Ça, c'est au verset 15. Dans l'Apocalypse, on a la même chose. Ils ont gardé fidèlement le témoignage de Jésus, ils ont été égorgés, mais ceux-là ressuscitent, pas les autres. Hein. Alors, c'est une invitation à la persévérance, au verset 19. Votre persévérance, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est tout un climat de la fin des temps, juste avant que Jésus arrive comme un filet. Alors, au verset 20, je donne globalement le contexte pour revenir à Matthieu après. Hein. Vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. C'est arrivé une fois avec Titus, en l'an 79, Titus a tout rasé, et partout, mais pratiquement Jérusalem n'est jamais relevé, hein, beaucoup plus tard, oui, mais pratiquement, il y a une deuxième annonce, c'est l'armée des nations, c'est-à-dire de l'ONU, les armées des nations. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand conflit entre les enfants d'Ismaël, les Arabes, les musulmans, et les enfants d'Isaac, Jacob, les Juifs. Il y a un grand conflit. Et il s'accentue, il faudra le gérer. Les nations vont vouloir le gérer. Parce que les nations n'ont pas envie que ça pète là-bas. Il y a le pétrole. Il y a l'énergie pour nos pays. Le business. Nos pays vont tout faire pour sauvegarder ce qu'on appelle la paix. La paix des hommes, c'est le business. Karl Marx avait vraiment raison en disant que la vraie motivation des hommes, c'est la production. Ce n'est ni la foi, ni la religion, ni l'éthique, la morale, c'était la production. Il voyait tout le système économique, Karl Marx. Et pratiquement, bon, c'est abusif, mais en attendant, c'est réellement ça qui se passe dans nos pays. Dans notre monde, la production et l'énergie sont liées. La satisfaction des besoins sont liées à la production et à l'énergie. Donc la satisfaction des besoins passe avant la religion. On utilisera n'importe quel motif religieux comme n'importe quel motif spirituel ou politique pour établir une paix sur Israël où il n'y aura pas de bagarre. On espère qu'il n'y aura pas de bagarre. Donc, les armées des nations sont à Jérusalem, et figurez-vous que l'ONU est sur une colline à Jérusalem, ça s'appelle la montagne d'Akitophel. Les Juifs, eux, qui vivent en Israël, le savent, ils appellent ça la colline du mauvais conseil. Le très mauvais conseilleur pour David, c'était Akitophel. C'était un tordu de tordu qui a fait tout pour que David tombe, qui a conseillé Absalom, etc., Adonija. Eh bien, pratiquement, c'est la colline du mauvais conseil. Et le bâtiment de l'ONU est au-dessus. Et moi, je circulais, je vais parler avec des gens. Ils me disent, qu'est-ce que vous pensez de ça? En étant sur place, on apprend des choses si on rentre en contact avec des gens. La colline du mauvais conseil, Akitophel. Et donc, ils savent déjà ce que leur poison vient venir de là. Alors, il y a évidemment au verset 24, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Fini les nations avec le business, avec la production et la satisfaction des besoins, avec les appareils militaires, avec les mensonges pseudo-religieux, parce que tout s'organise. Je vous parlerai un autre jour de quelque chose qui a eu des décisions prises entre certains dirigeants des nations et le pape actuel. Il y a ce qu'il dit à la TV, puis il y a ce qu'il fait derrière. Il faudra que je vous explique une fois ça. Ça va loin, vous savez, maintenant. Parce qu'il y a déjà les 10 royaumes de l'Apocalypse. Ils sont déjà convenus. Alors, ces accords-là sont signés. Il va voir les chefs religieux musulmans, etc. Pourquoi ? Parce qu'il veut sauvegarder cette paix de la manière humaine. Mais il n'y a pas de conversion. C'est une paix sans conversion. Donc c'est une paix qui n'est pas durable. La paix des hommes n'est pas la paix de Christ. Hein, recevez ma paix, non pas comme le monde la donne. Clairement, si on prend on va négocier avec des chefs qui aiment l'argent et tout ça pour faire une paix, c'est pas celle-là de Jésus. Donc je pense que le pape se trompe lourdement en faisant ça. Ce n'est qu'un bois de rallonge avant que ça pète, si vous voulez. Alors, les nations seront à Jérusalem à un moment donné et le temps des nations sera fini. C'est-à-dire que tous les genoux fléchiront. C'est mis dans Ésaïe et c'est mis dans Philippiens chapitre 2. Tous les genoux fléchiront. Tous les chefs des armées des États vont devoir entendre ce qui ne leur avait pas été annoncé au début d'Ésaïe 53, le premier verset, qui a cru à ce qui leur avait été annoncé. Et c'est ça. Le sacrifice de Christ et la paix de Christ sera la seule paix du monde pour son royaume. Alors, nous ne sommes pas loin, nous sommes en train de toutes les choses se passent de manière à la préparation du filet, l'arrivée du filet de Jésus. Au verset 25, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Qu'est-ce que vous voyez maintenant ? Réchauffement climatique, montée de l'eau. La peur partout. Elle monte réellement, la mer. Elle monte réellement. Si vous ne suivez pas l'actualité, elle monte réellement. Alors, l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, c'est pas par hasard, ça. C'est un des signes. Alors, le Fils de l'homme reviendra, verset 27, sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Voilà. L'annonce de Jésus à son retour. La même chose au verset 36. Veillez donc, priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses humaines, fausses, mal construites, construites sans Dieu, sans repentance, ces choses qui arriveront et de paraître debout dans le Fils de l'homme. Saint Irénée de Lyon, en 213, disait que la gloire de l'homme et de Dieu, c'est d'être debout, face à face, en relation. Irénée de Lyon. Adversus hérésès, contre les hérésies. Alors, pratiquement, dans ce contexte-là, Jésus a dit qu'il y avait un signe positif, c'est le figuier. Au verset 29, la comparaison du figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Ça, pour moi, c'est mon bonheur. Le figuier, c'est Israël qui se convertit à Jésus. Je n'ai jamais fait exprès, je vous le dis franchement, de tomber sur cet endroit en Israël où 100 à 110 000 juifs vont chercher une Bible avec le Nouveau Testament. Je ne l'ai jamais fait exprès. C'est vraiment Dieu qui m'a poussé là, avec les trois copains. Enfin, deux, parce que le plus âgé... Il avait des problèmes cardiaques et il ne pouvait plus monter la colline, il faisait tellement chaud. Si je remontais maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il fallait être en forme pour la grimper. Et pratiquement, là, on voit que des juifs laïcs, qui n'ont rien sur la tête, pas de cupa, pas de chapeau, rien du tout. Des laïcs qui travaillent, qui bossent, qui ont des familles, qui font dans l'industrie, qui sont dans la recherche, qui tiennent une pompe à essence, qui sont boulangers, qui sont chauffeurs de camions, des juifs... 100 à 110 000 vont chercher un Nouveau Testament. Là, depuis 2005, tout près de Beth Shemesh, à Beth Gemal, la maison de la bosse du chameau. Le figuier reverdit. Je vous dis franchement que je suis revenu d'Israël avec une espérance formidable. Parce que c'est des promesses. Mais ça fait longtemps qu'elles sont faites. Mais elle est là, maintenant. C'est plus une promesse, c'est une réalité. Alors, le figuier reverdit, ça veut dire qu'il y a un retour d'Israël vers le Messie Jésus. Et si vous allez là-bas en Israël ou que vous en rencontrez, vous serez convaincu, vous verrez que c'est tout à fait la réalité. Alors, reprenons Matthieu 13, versets 47 à 50. J'ai dressé un tableau général grâce à Luc 21. Maintenant, je reprends Matthieu 13, 47 à 50, qui est une parabole, une prophétie, en même temps, courte. Et comment peut-on comprendre deux versets si on ne va pas voir au père dans les autres évangiles pour avoir un éclairage? Un chrétien qui ne fait pas ça régulièrement ne peut pas comprendre la Bible. Il faut pédaler, il faut travailler dans la Bible, il faut chercher. Ce n'est pas une question d'intellectuel. Quelqu'un qui n'a pas fait d'école et qui lit la Bible peut être aidé du Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Quelqu'un qui ne sait pas lire, moi j'ai vu ça beaucoup en Afrique, qui ne sait pas lire, ou chez les Tziganes, qui ne sait pas lire, qui entend une prédication, il a, avec le Saint-Esprit, il sait dire si c'est vrai ou si c'est faux. Le Saint-Esprit est à l'œuvre quand on écoute la parole. Si on a soif, si on veut entendre, alors que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des yeux voit. Ça, c'est le cadeau du Saint-Esprit. Et toutes les paraboles et les prophéties dans Matthieu sont dans ce but-là, pour ceux qui désirent voir, désirent entendre. Et donc elles conviennent parfaitement pour nous aussi. Alors, dans ce verset-là, vous avez d'abord la mer, hein, verset 47, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. Rappelez-vous que c'est Jésus, le filet, avec ses anges, qui viennent travailler avec lui, hein? Parce que les pêcheurs qui trient, c'est les bons et les mauvais poissons, c'est les anges. Hein? Donc, le filet, c'est Jésus, et ramasse les poissons, c'est les humains. Alors, qu'est-ce que c'est que la mer? Ben, la mer, c'est l'humanité dans le chaos du péché. Dans le chaos du péché, mais tout de même, depuis 2000 ans, il y a eu Jésus crucifié et ressuscité. Et à travers tout cet océan, la barque, elle avance. Elle n'est pas coulée. L'église de Jésus-Christ n'a pas coulé. Malgré toutes les turpitudes, tous les mensonges, tous les magouilles, elle est toujours là. Et cette barque qui circule à travers tous les flots, toutes les tempêtes, elle est sous contrôle jusqu'au retour de Jésus. Vous devez comprendre que l'église de Christ est une œuvre éternelle, une œuvre divine, pas une œuvre humaine. Vous vous rappelez qu'il y a eu des tempêtes dans la mer de Nazareth, de Génézareth, de Tibériade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Allons voir dans Luc chapitre 8, à propos de la mer. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 22. À 25. Si quelqu'un veut lire. Luc 8, versets 22 à 25. C'est une voix bien forte.
Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit : passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres « Quel est donc celui-ci ?» commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent.
Alors, nous voyons le phénomène de l'Église, c'est que l'Église est accablée par un manque de foi. Oui, elle est accablée par un manque de foi. Et elle pense que c'est Jésus qui dort, qui ne fait rien. On inverse les rôles, les amis. C'est l'art de la foi charnelle, c'est d'inverser les rôles. Le Christ ne fait rien, il m'a laissé tomber, il n'a jamais rien fait, etc. Tchiketchak. Hein? Bon. On s'en lave les mains, comme Ponce Pilate. Alors, ce n'est pas ça du tout. Jésus est toujours dans la barque, Jésus est toujours à l'œuvre. Et vous savez ce que dit le psaume 107? Psaume 107. Il n'y a rien par hasard dans la Bible. Rien. Il faut avancer avec une assurance forte dans la Bible. Psaume 107, verset 23.